T'es parti en retard pour ton entraînement de foot, t'as claqué la porte et tes clés sont restées à l'intérieur de ton appart? Pas de panique, si t'as l'assurance habitation jeune de la Maïf, on t'envoie un serrurier et on paye même la facture.
Tant qu'on est sur le PSG, c'est justement un des rares clubs à avoir mis en place une prime d'éthique. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, les joueurs qui n'auront pas fait d'écart, que ce soit sur les réseaux sociaux, on en parlera plus tard, ou même dans la presse, sont récompensés par une prime. Ça doit être cool à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les clubs devraient mettre ça en place? Est-ce qu'au contraire ça met trop la pression sur les joueurs, ça les déresponsabilise par rapport à leur communication?
Ça se fait quand même de plus en plus, hein.
Ouais.
Au moment de...
Ah, mais est-ce que c'est une bonne idée, tu vois? C'est pas parce que ça se fait de plus en plus.
Disons,
c'est pas une bonne idée pour nous forcément, voilà. En tant que média ou même en tant que simple, en tant que simple public.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, le mec qui regarde la télé, qui suit le foot, c'est pas forcément bien pour lui. Parce que c'était, ça nous a tous fait rire, Serge Aurier, même si.
Désolé.
C'est pas bien,
c'est
désolé.
Vrai que c'était rigolo.
Il nous regarde. C'était rigolo quand même.
Ouais.
Mais effectivement, pour le club, c'est mieux. Parce que le jour où Serge Aurier il a sorti son truc sur Periscope, je pense qu'ils ont pas dormi pendant une semaine.
Ah oui, c'est sûr. C'était une bombe, hein.
Ouais.
C'est but. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast 9m15. Comme chaque semaine, la rédaction de Gensides se réunit pour traiter des questions qui font du football une culture plutôt qu'un sport. Aujourd'hui, la langue de bois est-elle obligatoire dans le football? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la communication des footballeurs, pourquoi beaucoup d'interviews malheureusement sont parfois chiantes, on n'y apprend rien, elles sont inintéressantes, est-ce que c'est de leur faute, est-ce que c'est de la faute des journalistes, est-ce que c'est de la faute du public qui est trop con? On va évoquer tous ces sujets aujourd'hui et pour parler de tout ça forcément on a fait venir deux journalistes qui sont très conscients de la question. Julien Ménard de chez TF1, bonjour Julien.
Bonjour.
Qui a suivi les Bleus pendant toute la Coupe du Monde, proche des familles des joueurs et tout, donc j'imagine que tu auras plein de trucs à nous raconter. Et Guillaume Charrier, ancien journaliste. Salut. De Canal Plus pour la grande surface du Canal Football Club, que donc tous les joueurs de Ligue 1 connaissent, absolument tous.
Tous.
Et évidemment, autour de la table, comme chaque semaine, quelqu'un que aucun joueur de Ligue 1 ne connaît, Yannick Mercieris.
C'est vrai, ça, aucun joueur ne me connaît. C'est vrai.
Personne.
Mais c'est
parce que tu travailles au-delà de la Ligue 1, c'est quoi, c'est quelque chose de
non, pas du tout, c'est juste je suis inconnu, personne ne me connaît, c'est tout.
Bien, pour lancer tout ça, je propose que d'abord, on essaye de se dire, qu'est-ce que c'est la langue de bois? D'abord, quel est le footballeur qui la pratique le mieux? Quand on dit langue de bois, pour vous, quel est le premier footballeur qui vous vient à l'esprit direct? Footballeur ou entraîneur? Ouais. Monde du football.
Bah, Cavani, il est pas mal quand même en termes
Cavani,
de langue.
Cavani, je m'attendais pas à entendre ça.
Si, Cavani, j'ai pas pensé. Ouais.
Si, c'est vrai. Cavani, en zone mix, c'est... En fait, on pourrait prendre chaque zone mix de Cavani
et puis
l'envoyer à la rédac. Quoi.
L'important, c'est l'équipe.
Ouais,
c'est
en
général. C'est ça qui le dit très bien.
L'important, c'est l'équipe, ce qui se passe dans le vestiaire. Reste dans le vestiaire, voilà, point de vue général. L'important, c'est les trois points, on les connaît. Mais oui, Cavani, il est pas mal là-dessus. Laurent Blanc, à son époque, était bien aussi.
C'est vrai.
Spécialiste, ouais, Laurent.
Ça, c'est grand spécialiste.
Bah, les mecs de France 98, globalement, parce que bah, pour moi, Didier Deschamps, il est pas mal. Hein, en termes de langue de bois, en termes de.
Ouais, mais tu vas avoir Thuram, petit, des mecs qui craquent.
Ouais,
un peu.
Mais alors, tu vois, Deschamps, par exemple, en conf de presse, il fait de la langue de bois. Mais des fois, il a des réactions qui traduisent quelque chose. Tu vois, il a des mimiques, il a des agacements, C'est pas un bon client. Mais à l'arrivée, des fois, tu arrives à comprendre au-delà de. Il va te sortir une phrase langue de bois, mais il va avoir une petite réaction, un petit truc, un petit regard, un petit machin.
Okay.
Et ça peut être interprétable. Alors que Laurent Blanc, lui, c'était vraiment.
Ouais. Deschamps, il dit des choses, mais il est très dur à piéger, entre guillemets.
Okay.
C'est-à-dire qu'il maîtrise vraiment toujours. Parfois, il a envie de faire passer un message, il arrive à bien le faire passer, mais tu le pièges pas.
Et donc, tu parles de piège, ça veut dire que c'est obligatoire pour un joueur d'avoir cette maîtrise de sa communication, de savoir pratiquer la langue de bois pour réussir sa carrière? Ça fait partie des atouts qu'ils sont obligés d'avoir?
C'est important quand même. Tu dois être, comme sur le terrain, tu dois être un maître de tes émotions. Je pense que ouais, dans ta communication aussi, tu peux pas dire n'importe quoi. Parfois, tu penses certaines choses, il vaut mieux te taire, en tout cas sur le coup, et te poser un peu.
Après, il y a une différence entre la langue de bois, qui n'est pas forcément nécessaire à chaque interview, et le fait de se protéger d'une question piège. C'est pas exactement la même chose, tu vois. Que les mecs soient conscients qu'il y a des questions pièges et qu'ils veuillent pas tomber dedans, c'est plutôt bien pour leur carrière et c'est plutôt bien pour leur image. Après, des fois, quand t'arrives avec une question bienveillante à la fin d'un match ou dans une conférence de presse et que le mec se crispe comme ça et te sort un truc du genre bah non, l'important c'est l'équipe, on est content de gagner, etc. C'est là pour le coup, c'est peut-être lui qui est trop dans la crainte et qui est trop dans la protection.
Mais
et,
s'ils sont comme ça aussi, c'est parce que il y a un retour soit fait par les médias, soit fait par le public où ils se disent si je balance quelque chose, aujourd'hui c'est devenu tellement important la communication autour d'une carrière. qu'ils se disent si je dérape, si je dis un mauvais truc ou si tout simplement c'est mal interprété.
Ouais, c'est ça aussi. Ça peut être mal interprété.
Le côté de mauvaise interprétation, parce que en soi, ils disent jamais rien de fou, quoi.
C'est aussi parfois un peu un manque de confiance de la part du joueur. Tu vois, il se dit, il a peur de dire une bêtise ou que ce soit mal interprété. Donc, du coup, il préfère se taire ou vraiment sortir ses phrases bateau, type qu'on lui a appris, oui, ou qu'il entend.
Mais ça veut dire que c'est plus facile à apprendre de pratiquer la langue de bois plutôt que d'apprendre à être naturel devant une caméra et détendu de, ouais, face aux questions d'un journaliste.
Oh oui, je pense.
Ouais, c'est une forme de défense. Tu te mets sur la défensive, hop, tu sais quoi répondre, voilà, pour botter en touche.
C'est automatique, c'est une autoroute. Tu sais, ils répondent toujours la même chose. Ils répondent pas aux questions souvent. Tu sais, à la fin d'un match, tu peux poser n'importe quelle question. Ils disent ouais, et ils te résument le match. Peu importe ce que tu demandes.
Bah, c'est plat du pied sécurité pour eux, en fait. Ce que je veux dire, le mec, il veut pas se mettre en danger. Et ce que tu dis, c'est vrai. C'est plus facile de faire ça que de maîtriser son image et d'aller un petit peu. Tu vois, un mec comme Zlatan, par exemple, qui a une image, qui sort des trucs, qui sort des punchs assez incroyables, ça demande une certaine maîtrise. Déjà, il faut l'assumer à chaque fois. Il faut pouvoir retomber sur ses pattes ensuite quand t'as une conf après et qu'on t'interroge là-dessus. Ils n'ont pas tous forcément envie d'aller sur ce terrain-là et ils n'en ont pas forcément tous le coffre, tu vois. Donc les mecs, ils assurent, tu vois, quand ils n'ont pas la technique de Ronaldinho, bah, plat du pied, sécurité, et on file la balle au numéro 10 et puis on est bon, quoi, tu vois.
Mais du coup, le résultat de tout ça, c'est qu'on a des interviews parfois un peu molles, pas très intéressantes. Donc est-ce que c'est pas aussi aux journalistes et à nous de poser des questions dont ils n'auront pas peur et qui en même temps apporteront quelque chose?
Est-ce qu'on peut dire un truc, on est tous d'accord, je pense, il faut rien attendre d'une interview après un match bord terrain.
Ouais, c'est exactement ce que
c'est la pire truc.
Non mais ça, il faut vraiment que les gens se mettent en tête, on n'attend rien d'une interview comme ça.
Après, c'est un contexte. Quand tu l'as à bord terrain juste après le match, il n'y a pas vraiment de fond, c'est plus
tu charges
le joueur,
l'émotion,
tu veux, voilà, tu as une première réaction, mais tu sais qu'il se soit passé quelque chose de fou et que le joueur réagisse tout de suite, mais en général, oui, c'est des banalités.
C'est exactement ça. Le but, c'est de faire un peu durer le plaisir. Le match vient de se terminer, donc en fait, le but de cette interview, elle n'est pas là pour te sortir des punchs ou des trucs incroyables.
Bah, ça marche parfois parce que des joueurs qui sont encore dans l'excitation du match vont sortir, sont encore tout énervés et vont sortir des trucs.
Je pense à Geoffrey Jourdain.
Je pense à Geoffrey Jourdain, par exemple, avec Tolisso.
Ah, mais
oui, je pense souvent à Jourdain.
Voilà, c'est un joueur intelligent plutôt.
On est deux.
C'est un ami de Guillaume, hein, Jourdain.
Oui, il a une ferme avec une chèvre.
Yes, plusieurs.
Il aime beaucoup les animaux. Et non, mais c'est un mec sympa. Mais c'est vrai que le match de thé à la mer, par exemple, il avait été mythique. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Et oui, hormis certains joueurs qui sont un peu sanguins et qui peuvent te lâcher des trucs, ou alors qui se lâchent avec Paga. Parce que Paga, il fait toujours la même interview. Mais c'est vrai. Bah, chez les Francs.
C'est vrai.
Ouais, chez les Francs, quoi. C'est vrai. Il fait toujours la même chose.
Tu le souhaites en tous les cas.
Ouais, on te le souhaite. Bon machin. Et puis quand il parle anglais, c'est génial. Ou enfin voilà. Mais les mecs, après, ils ont un lien aussi. Tu vois, il y a un lien avec le mec bord terrain, que ce soit avec Talaron, que ce soit avec les journalistes TF1, que ce soit avec Paga. Il y a un lien qui se crée et donc il y a une sympathie et ça se ressent dans l'interview. Et c'est ça, ça donne.
Mais c'est vrai que sur le fond. C'est vrai que là, je vous rejoins, c'est qu'on arrive sur de l'émotion pour avoir un petit truc en plus. C'est presque un bout de match, en fait. C'est comme si on avait
une petite
caméra en plus, un petit micro en plus, etc. Mais c'est vrai qu'on n'attend rien. Et il y a parfois deux choses différentes entre l'interview d'après-match ou encore pire à la mi-temps, où le mec il est encore dans son match, donc il a vraiment rien envie de te dire.
Et puis il est cramé quand même. Il sort, il est gaismer. Mettez-vous à sa place aussi.
Ouais, c'est clair.
Mais toi, vas-y, va courir 90 minutes, t'arrives, t'es là, t'as un manque de lucidité. T'as pas gars en face de toi ou Julien Ménard, tu dis oh là, qu'est-ce que je vais dire,
qu'est-ce qu'il va me dire. Non, mais après il y a deux exercices différents, et quand tu fais, parce que parfois tu trouves aussi de la langue de bois dans des interviews qui sont posées, que tu lis dans les magazines, etc. Et là je trouve que c'est plus inquiétant parce que ça veut dire que soit l'interview elle est mal menée, soit que le mec a vraiment pas envie de communiquer. Du coup, quel est son intérêt pour lui d'accepter si c'est pour dire ça? Autant qu'ils se taisent, autant qu'ils ne disent rien, et qu'ils n'intéressent personne, n'y gagne.
Bah là, on arrive sur la question de Valentin. Est-ce que la faute ne vient pas aux médias aussi? Un grand producteur du CFC à l'époque m'avait dit il n'y a pas de mauvais interviewé, il y a que des mauvais intervieweurs. Voilà. C'est un peu un mantra chez certains journalistes. Après, pourquoi est-ce qu'ils acceptent? Parce que le média le veut, parce que c'est lui dont on parle, parce que le club il a envie de le mettre en avant. Il y a aussi plein de choses comme ça qu'il faut prendre en considération.
Justement, il y a le rôle du club, parce que c'est aussi au club de maîtriser la communication de leurs joueurs. Dans quelle mesure, en fait, c'est pas contre-productif pour eux, parce que s'ils bloquent la communication de leurs joueurs, ils vont envoyer une image assez bateau, banale, et qui ne leur servira pas, puisqu'ils sont là pour faire la promotion de leur club, finalement.
Ouais, ils bloquent pas forcément la communication, mais on va dire qui choisissent les moments voilà opportuns là cette semaine. Par exemple, on a beaucoup vu Neymar qui est passé, je crois, trois fois en 10 jours en zone mixte. Peut-être là pendant 3 mois on va plus le voir. Donc Sur l'année, tu les as, les joueurs, en général. Mmh. Mais c'est vrai que c'est plus un travail un peu de filtre. C'est-à-dire que le club, à un moment donné, va se dire « Bon, là, on va peut-être mettre un tel en avant plutôt qu'un autre. » C'est plus ça, en fait. Et après,
il n'y a pas une pression réelle en permanence sur le groupe. Je ne sais pas, chaque semaine, on leur dit « Attention, cette semaine, on va vous parler de ça. Il faut faire attention à ce sujet. »
Non, parce que quand même, on n'envoie pas nos questions en conf de presse. Il y a une conf de presse par semaine, donc là, il y a quand même une liberté de la presse. On peut poser la question qu'on veut. Maintenant, Julien, peut-être il va me dire, moi, à l'époque où je faisais les matchs du PSG, les joueurs étaient normalement obligés de passer en zone mixte. Je sais pas si c'est toujours le cas.
Normalement, aujourd'hui, il y en a deux seulement, deux, trois qui passent en zone mixte après les matchs. Ah, donc ça, c'est décidé par le club.
Ça c'est nouveau, ça a changé, ouais.
Ouais, avant, ils passaient tous. Et ceux qui voulaient s'arrêter, s'arrêtaient. C'est plus le cas. C'est-à-dire le club en choisit 2-3, ces joueurs-là vont s'arrêter, les autres ne passent pas. Et c'est aussi pour éviter que les journalistes puissent en attraper un, faire un petit sonore qui n'était pas prévu. Donc voilà.
Il contrôle vachement. Et d'ailleurs, sur Canal, on regardera que le PSG n'a jamais de joueurs interviewés avant le match. Ni le coach, etc. Je crois que c'est une manière aussi, c'est de la communication du club qui veut pas, par exemple, Paga, il a jamais un joueur du PSG. Ils les ont avant.
Oui, c'est
un
plus après. Non, en fait, c'est pas par rapport à la chaîne, plus que par rapport aux journalistes. Il y a des interviews obligatoires avant le match. Je me rappelle que Talaron avait toujours Emery. D'ailleurs, il y avait toute une espèce
de bromance.
Aussi. Il y avait une bromance entre Emery et Talaron, faut le dire maintenant. Un truc fort qui se passait, mais c'était les interviews obligatoires. Après, je trouve ça dommage. J'apprends là que les joueurs ne passent plus systématiquement. Ce qui était bien à l'époque, c'est que quand ils passaient, s'ils n'étaient pas contents, ils passaient en coup de vent, ils passaient rapidement. Et mine de rien, le fait de le filmer, c'était aussi une matière pour nous de dire voilà, lui, il n'est pas content, regardez, il se passe ça.
Mais Zlatan, c'est ce que le club, malheureusement, veut éviter.
Ne veut plus. Ah oui. Donc on est là, pour le coup, dans ce que vous dites, dans un peu. Ils resserrent la vis au niveau de la com. Ils veulent éviter que les joueurs soient. On se rappelle de Zlatan à Lille, quand il était sorti, puis qu'il avait dit aux joueurs
suivez-moi.
Suivez-moi, personne. Ouais. Nobody talks. Et puis ils étaient partis comme ça, comme un petit train. Et puis,
alors ça se fait encore. Un petit peu à l'extérieur,
ouais,
parce que il n'y a pas forcément plusieurs issues pour rejoindre le bus, mais à domicile, il n'y a que les joueurs du PSG qui doivent parler en zone mixte, qui passent par la zone mixte.
Oui, ils peuvent l'éviter. Alors que c'est vrai qu'au stade Pierre Mauroy, le vestiaire visiteur, c'est un piège, c'est un traquenard. C'est-à-dire, ils sortent directement les journalistes.
Et puis la zone mixte est assez longue, faut faire tout un détour, donc t'as le temps de les attraper à plusieurs endroits.
C'est Euro Disney pour eux. C'est les trains de la mine. Ils sont comme ça, ils marchent et toi tu cours derrière et tout ça. Zlatan, il était imperturbable pendant tout le
ça sert à rien. Tant qu'on est sur le PSG, c'est justement un des rares clubs à avoir mis en place une prime d'éthique. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, les joueurs qui n'auront pas fait d'écart, que ce soit sur les réseaux sociaux, on en parlera plus tard, ou même dans la presse, sont récompensés par une prime. Ça doit être cool, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tous les clubs devraient mettre ça en place? Est-ce qu'au contraire, ça met trop la pression sur les joueurs? Ça les déresponsabilise par rapport à leur communication?
Ça se fait quand même de plus en plus.
Ouais.
Au moment de...
Mais est-ce que c'est une bonne idée? Tu vois, c'est pas parce que ça se fait de plus en plus,
disons,
que ça l'est.
C'est une bonne idée pour le club. C'est pas une bonne idée pour nous forcément en tant que média ou même en tant que simple public.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, le mec qui regarde la télé, qui suit le foot, c'est pas forcément bien pour lui. Parce que ça nous a tous fait rire, Serge Aurier, même si.
Désolé.
Pas bien, c'est désolé.
C'était rigolo.
Tu nous regardes. C'était rigolo quand même.
Ouais.
Mais effectivement, pour le club, c'est mieux. Parce que le jour où Serge Aurier il a sorti son truc sur Periscope, je pense qu'ils ont pas dormi pendant une semaine.
Ah oui, c'est sûr. C'était une bombe. Hein.
Ouais. Donc ouais, je pense que les mecs se protègent eux-mêmes. Et en même temps, un club comme le PSG, tu disais tout à l'heure, c'est quoi leur intérêt d'envoyer tel ou tel gars? À partir du moment où ils ont une star internationale, le mec peut ne rien te dire, ce sera une bonne interview pour toi, parce que t'as besoin de l'avoir et parce que dans ton sommaire, tu te dis, regardez, on a lui, c'est déjà bien. Et souvent, les bons clients, ce sont ce qu'on appelle les bons joueurs de Ligue 1. Les joueurs un peu moins connus.
Expérimentés aussi
qui sont un peu expérimentés, mais surtout qui kiffent d'être là, qui sont pas forcément programmés depuis l'âge de 14 ans à être des pros. Ceux qui se retrouvent là un petit peu parce qu'ils ont eu une carrière et une chance dans leur vie. Et eux, ils kiffent. Et eux, ils sont contents de voir un micro.
Est-ce que c'est pas eux, justement, les meilleurs communicants? Et d'ailleurs, il y a plein de joueurs qui ont fait des carrières aussi, un peu là-dessus, en se disant, je suis un bon communicant. Et du coup, j'ai une hype qui était pas prévue. Bon, il y en a un qui est un peu exceptionnel, qui est Meunier au PSG, parce que lui, il a le discours d'un bon joueur de Ligue 1, ou tu vois, d'un bon mec de Ligue 1, mais qui est dans un des plus grands clubs d'Europe.
Mais lui, typiquement, c'est un bon client pour les journalistes. Après,
pour le club,
je sais pas si le club est toujours satisfait. Parfois, il y a des sorties qui peuvent derrière poser problème. Donc, pour les journalistes, oui, c'est un bon client. Après, comment le club le voit, c'est une autre question.
Après, on va pas se mentir, les mecs du PSG, ils s'en foutent de la prime d'éthique. Je veux dire, s'il a envie ouais. de se faire plaisir, Thomas Meunier, je pense qu'il n'est pas à une prime d'éthique près.
Non, mais c'est plus son contrat derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il...
C'est plus pour être bien avec le club, pour être bien avec Nasser, pour être bien avec les instances et tout ça. Mais Meunier, s'il a envie de dire un truc, il le dit. C'est pas parce qu'il a pas la prime à la fin de l'année qu'il va être dans la merde.
Je sais pas si c'est ça qui. Enfin, la prime, je pense qu'il s'en fout.
Ouais, je pense qu'ils sont.
C'est surtout l'aspect, et puis dans le vestiaire aussi, parce qu'il y a ça qui est vachement important, c'est quand tu balances une saucisse ou que tu dis un truc fort sur la place publique et que tu le dis pas dans le vestiaire ou que ça remonte dans le vestiaire, là aussi c'est différent aussi pour les joueurs. Bah, la communication dans le vestiaire et la communication publique. Elle est parfois liée et donc du coup ça peut te bouleverser un vestiaire.
Ouais, parce que les mecs ils veulent pas froisser leurs coéquipiers aussi, tu vois. Des fois il y en a, ils sortent des trucs où ils se font un peu piéger entre guillemets. On n'est pas là pour piéger en tant que média, mais des fois ils sortent des trucs et puis ils le regrettent un peu après et ça peut froisser dans le vestiaire. Donc ils font tous un peu gaffe.
Ça m'est arrivé. Enfin, je connais un joueur par exemple qui avait fait une sortie en zone mixte.
Lâche un nom.
Je suis même plus sûr du nom, mais je me souviens qu'il lâche donc.
Ça, il est plus sûr du nom. Ça,
quelque
c'est
chose en zone mixte. Et il se rend compte en fait qu'il a peut-être été un peu trop loin. Il va voir ensuite son coéquipier, le coéquipier concerné, pour lui dire, écoute, voilà, j'ai dit ça en zone mixte. Voilà, enfin, s'expliquer tout de suite parce que oui, derrière, ça peut créer des problèmes aussi entre les joueurs au sein du vestiaire.
Après, ils sont rompus à l'exercice, surtout dans un club exposé comme le PSG. Donc après, les mecs, ils arrivent quand même à, ils savent très vite qu'on passe très vite à un autre sujet. Et puis voilà, il y a pas de drame.
Mais c'est ça le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de pièges, de questions de thèmes qu'il faut pas aborder, tabous. Tout ça, on parle quand même de foot. Donc je veux dire, il y a rien de grave. Tout ça est fait pour rire et pour s'amuser, pour profiter. Donc comment ça peut y avoir une telle pression là-dessus?
C'est un mystère. Moi, j'ai pas de réponse. Par exemple, il m'est arrivé de bosser pour le Grand Journal, donc faire des hommes politiques. C'est quand même autrement, entre guillemets, plus important d'un point de vue social ou sociétal. C'est plus facile d'aller bouger un homme politique et on a beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins. Non, mais c'est vrai, c'est plus facile. Alors, le foot, vraiment, c'est un truc extrêmement touchy.
Donc, c'est la thune.
Mais déjà, de base, les joueurs sont assez méfiants par rapport aux médias. Je ne vais pas dire qu'ils voient ça comme des ennemis, mais il y en a pas loin, dès le début de leur carrière, avant même d'avoir eu le moindre problème. Donc, c'est aussi, dès le départ, ils sont un peu braqués. Après, certains s'ouvrent, font confiance à certaines personnes et se livrent un peu plus. Mais c'est vrai qu'au départ, ils sont quand même...
La différence en plus entre un politicien et un footballeur, c'est que le politicien a envie de communiquer.
Oui, bien sûr.
Le footballeur, pour beaucoup, il s'en fout, il n'a pas besoin de communiquer. Ce qu'il demande, c'est juste faire son taf tranquille, quoi.
Et c'est vrai que ceux qui adorent communiquer, ils se lâchent. Adil Rami, c'est un bonheur. Ouais. C'est un kiff ultime d'avoir Adil Rami devant son micro.
Et d'ailleurs, souvent, c'est les joueurs, on parlait de Thomas Meunier encore, là, Adil Rami, c'est encore un autre exemple, c'est les joueurs qui n'ont pas forcément été bercés dans le monde du foot pour devenir des immenses stars, qui ont cette communication un peu plus facile. Donc ça veut dire que c'est pendant leur formation, peut-être trop jeune, on leur parle déjà de comment s'exprimer devant les médias.
Ils rentrent dans un moule, en fait, c'est juste qu'ils rentrent dans un moule et ils parlent tous de la même façon, en fait.
Il y a un mimétisme. Hein.
C'est exactement. En plus, ils ont des formulations parfois.
Comme les journalistes, d'ailleurs.
Des formulations qui sont parfois très complexes grammaticalement, et tu te dis mais comment ils arrivent à sortir une phrase comme ça, ils sortent des mots,
et
on
ça,
a fait preuve d'opiniâtreté, tu sais, genre, mais
après je pense qu'ils sont tous conscients que ça fait partie de leur métier, qu'ils doivent s'exprimer au moins un minimum. Il y en a qui aiment bien, d'autres qui détestent même. C'est une question aussi de personnalité. Hein.
Après, on va quand même pas accabler tout le temps les joueurs. Il y a certaines questions, moi j'ai fait beaucoup de confs de presse, Julien aussi, il y a certaines questions. C'est difficile de faire une super réponse. Après,
il y a un petit accident.
C'est difficile de faire une bonne réponse des fois. Mais en même temps, c'est ça. T'es en conf de presse d'avant match. Tu vas pas déjà faire le match. Enfin, c'est difficile de la faire vivre et de l'animer. Il y a des questions qui sont plus plates, qui sont moins corrosives, moins tout ce que tu veux. Et forcément, là, il faut pas s'attendre à des réponses de dingue. Mais les médias qui font, il faut voir, il y a plusieurs types de médias. Il y a le mag. Julien, il bosse plutôt pour une émission qui fait du mag, donc il va un peu chercher des trucs, etc. Puis t'as les émissions de flux, t'as les chaînes de flux info, etc. Eux, ils ont besoin de matière comme ça. Ils ont besoin de Rudy Garcia qui dit, l'important c'est les trois points parce que c'est aussi ça qui va alimenter leur flux, leur toute image, etc. Il y a deux types de médias, il y a deux façons de traiter l'info, mais il n'y en a pas que deux, il y en a plus que ça. Et donc forcément, il en faut un peu pour tout le monde. Donc je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais
ouais, je suis d'accord, tout à fait d'accord.
C'est vrai.
C'est beau.
C'est beau. Hein.
Ils sont tous d'accord.
Bon, alors les coupables au final de cette langue de bois, c'est nous, c'est les joueurs. Est-ce que c'est le public? On n'a pas évoqué ça. Est-ce que c'est le public qui est trop friand de matière pour pouvoir critiquer un joueur en dehors de l'aspect footballistique?
Tout le monde est un peu coupable parce que on va tous se régaler d'une cagade de quelqu'un. c'est comme un mec qui tombe dans la rue, on va tous rigoler parce que c'est pas bien.
Mais le joueur pourra en rire aussi, en fait. C'est ça le truc.
Oui, si mais ce problème, c'est que la place de l'humour et du second degré, quand tu es écrit, par exemple, quand c'est écrit, tu la vois pas. Tu le vois absolument pas. Et du coup, dans l'extra time dont on parlera tout à l'heure, on vous racontera chacun un petit off. Et il y a des choses qui sont drôles, mais que tu peux pas raconter, alors que ça passerait très bien. C'est juste que tu ne peux pas le dire parce que t'as peur que ça soit mal interprété, etc. Donc tout le monde est un peu coupable, et on oublie souvent le public. Quand il communique pas que pour le journaliste et que pour le média. Il y a un public derrière. C'est ça parfois que je reproche
pour les supporters. Beaucoup.
C'est ça. Quand c'est je dis public, c'est supporters, supporters et on va dire spectateurs. Et il faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui ont envie d'en savoir un peu plus aussi. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., si j'anticipe un peu ce débat,
anticipe pas trop.
Je ne veux pas trop anticiper, mais il y a aussi une autre façon pour eux de communiquer et de s'adresser aussi aux supporters.
Et tu vois, pour le coup, il y en a un qui n'était pas non plus un super bon client à l'époque, il y a longtemps, Tai Taiwo, mais lui, quand il parlait Tai Taiwo, il parlait pour les supporters marseillais. Tout ce qui l'intéressait, c'était le mec sur la canne-bière, le lendemain matin, qui allait parler du match de l'OM. Il s'en foutait du mec à Caen, à Strasbourg, n'importe où. Le mec parlait pour ses supporters. Et Tai Taiwo, quand tu vas à Marseille, tu dis ce nom-là, il est adoré. Alors que c'est loin d'être le meilleur joueur du monde, il a une frappe de mule, certes, mais bon.
Oui, c'était pas le meilleur.
Et c'était pas le meilleur, mais c'est une star.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai qu'on s'en souvient.
Bah oui,
on l'oubliera pas, c'est vrai.
On peut pas oublier Tataïo.
Il y a aussi un autre aspect de la communication des joueurs, c'est leur attitude sur le terrain. Parfois, on va reprocher à des joueurs d'avoir l'air nonchalant sur le terrain, d'avoir l'air pas sympa. Je pense à Nabil Fekir, par exemple, qui a une attitude. Alors que pourtant, dès qu'on parle à un journaliste, on a reçu ici les réalisateurs du documentaire sur l'équipe de France au Mondial, ils nous disent le plus gentil, le plus adorable, c'est Nabil Fekir. Voilà, c'est un cœur. Donc, il est parfait. Et pourtant, il renvoie cette image un peu de moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous, j'ai pas trop envie d'être là, ça me fait chier de vous parler aussi. Et bon, il le montre assez honnêtement. Quel impact ça a, l'attitude sur le terrain, même dans la manière de bouger, de sourire sur un terrain, ça joue aussi dans leur communication?
Ouais, je pense qu'il y a des joueurs. Moi, je pense à un garçon comme Anthony Martial, par exemple.
Ouais.
C'est au bout d'un moment, il le paye quelque part d'être très renfermé. Alors, c'est quelqu'un qui aime pas beaucoup s'exprimer dans les médias, même pas du tout.
Ouais, et il a le droit.
Et sur le terrain, c'est pareil. Le fait qu'il soit renfermé comme ça, je pense quelque part que ça le dessert forcément.
Après, il faut arrêter. Enfin, on a tous besoin de parler sur le foot. Donc, on va chercher le moindre petit truc, la nonchalance, etc., machin. Mais pour revenir sur Nabil Fekir, assister à un entraînement de l'OL, vous verrez que ce mec, il est tout sauf nonchalant. Il est mis à l'amende à chaque entraînement.
Prêche convaincu ici.
Non, mais voilà, mais il est donc après on a besoin de se dire voilà, tiens, lui il a pas fait tel ou tel effort. Un mec comme Zlatan par exemple sur le terrain avait des moments où il était plus nonchalant, surtout dans le repli défensif. Ça pour le coup c'est une vraie critique, c'est-à-dire que le mec d'un seul coup il fait pas les efforts défensifs, à un moment donné il peut plus les faire. Nabil Fekir, je l'ai jamais vu vraiment refuser une consigne de coach. C'est vrai qu'il a une attitude, même Martial il refuse pas vraiment les consignes de coach.
Non, c'est plus
c'est une attitude. Ouais.
Un regard, quoi.
Donc moi je peux comprendre la critique quand le mec il fait pas l'effort pour aller couvrir un gars qui s'est planté, que c'est du foot. C'est de la stratégie, c'est du foot, c'est une consigne de coach. Si le mec il a l'air nonchalant, bah laisse-le, il est bien comme ça.
Puis t'as la communication verbale, la non verbale, et aussi parfois t'as un délit de sale grammaire. T'as des gens, non mais c'est vrai, ouais, c'est parce que ils ont pas tous été.
On va parler de Franck Ribéry, c'est ça.
Il y a pas que lui... non, parce que lui il peut cumuler délit de sale gueule en plus. Le pauvre. Mais en fait tu as des gens qui n'ont pas tous été à l'école, en tout cas pas très longtemps. Ils sont en groupe de gens qui n'ont pas été à l'école, donc forcément ils se tirent pas vers le haut. Et c'est pas méchant, hein, c'est juste que
Et puis on s'en fout, c'est pas seulement ça qu'on leur demande, tu vois, c'est ça aussi.
Je sais pas si les footballeurs doivent bien s'exprimer. Je ne sais pas si on doit leur demander ça aujourd'hui.
Mais il y a des joueurs aussi qui justement sont conscients de ça et fuient un peu les médias parce qu'ils n'ont pas envie.
Parce que c'est vexant aussi d'entendre.
Ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise avec leur façon de communiquer.
Ils se sentent pas à l'aise. Ils n'ont pas envie de voir qu'on se moque d'eux. Et voilà. Donc ils se protègent aussi quelque part en disant je parle pas.
Et tu sais, la langue de bois, elle vient aussi de pas mal d'erreurs qui ont pu être faites. Moi, je me rappelle. Bon, tout le monde se rappelle de cette scène de Franck Ribéry en claquette chaussette sur le plateau de TF1 en 2010.
Bien sûr.
Ça, c'est un moment on s'en souviendra toute notre vie.
Je travaillais ce matin-là. Je peux te dire que je m'en souviens.
Mais en vrai, c'est une erreur monumentale de l'avoir fait parler, de lui avoir dit ok, tu peux y aller, t'es en claquette chaussette, vas-y, t'as pas de micro, le cadreur il est pas prévenu, il a mis son temps. Enfin, c'était une non-maîtrise un peu totale, et je pense que la Fédé a dû. C'était beau, c'était un super moment télé. Mais la Fédé a dû se dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé aller sur le plateau à ce moment-là? Il avait pas vraiment préparé, et ça se sentait.
Mais tu vois là, quand tu parles des claquettes chaussettes et aussi de l'attitude, tu vois, des joueurs, du langage corporel, en fait, le fait aussi qu'ils soient de plus en plus fermé parce qu'il y a quand même de moins en moins de joueurs qui s'expriment, les interviews sont de moins en moins longues, etc. Ça t'amène à analyser un peu tout ce qui est à côté. Tu vois, le langage corporel, l'attitude, la tenue, parce qu'en fait t'as tellement peu de contenu, tellement peu de fond dans tes interviews que tu te raccroches à tout ce qu'il y a autour pour essayer d'analyser un peu le truc.
Et est-ce que parfois, pour revenir justement sur ce côté un peu grammaire, là, c'est des études de lettres qui remontent, hein, tu vois, mais je me dis c'est pauvres gars-là, en fait, on les attaque là-dessus, mais c'est parce que c'est les mots sont des briques dans la construction mentale pour chacun, et donc du coup, si tu ne sais pas bien t'exprimer, bah tu vas pas forcément réussir à délivrer les bons messages.
C'est une injustice de les attaquer là-dessus. Ouais. C'est injuste, c'est dégueulasse. En vrai, c'est dégueulasse.
C'est vrai.
En vrai, on devrait juste le vivre comme ce que c'est, c'est-à-dire quelque chose de plutôt sympa, drôle. On devrait avoir de la bienveillance quand on traite un truc comme ça. On devrait pas les attaquer. Maintenant, les mecs, ils se sentent attaqués parce qu'il y a quand même une part d'attaque, c'est vrai, il faut pas le nier. Donc ils se referment sur eux-mêmes comme une tortue.
Je parle pas que de l'attaque, en fait. Le fait de juste pas bien s'exprimer, donc de pas avoir le bon message, en fait, de vouloir dire quelque chose pas savoir le dire, et du coup de dire l'important c'est les trois points au lieu de dire je sais pas, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin dans cette partie là mais je pense qu'on n'a pas poussé le truc, enfin tu vois, de faire des phrases un peu plus complexes.
Ça me rappelle Karim Benzema il y a longtemps en interview, je crois pas qu'on l'ait je sais plus si on l'avait mis sous CRS dans les rushs, il avait dit je veux aller plus haut que moi, je veux aller plus loin que moi, en fait il cherchait le mot transcender, il l'avait pas, mais il a donné une super définition du mot transcender à l'arrivée, c'est génial. Bon, c'est voilà, mais,
mais du coup ça
nous a fait marrer, mais c'est bienveillant. Oui, ça peut aller au zapping, ça c'est drôle,
et c'est pour ça que t'as des l'exemple de Kylian Mbappé où tout le monde s'est extasié au début en disant qu'est-ce qu'il parle bien. En fait, il parle juste normalement, peut-être.
Ouais, mais alors
et c'est juste.
Mais le compares par rapport aux gens de son milieu, sinon ça n'a pas de sens.
Bah ouais, après, mais on ne devrait pas les comparer là-dessus. On peut les comparer
parce
que ce sont des footballeurs, ce ne sont pas des professeurs agrégés de lettres.
Comment on fait pour faire comprendre ce message aux joueurs? Comment on fait pour leur dire on s'en fout, les gars? Enfin, on n'est pas là pour vous juger de. Comment on fait pour sortir de ça, en fait? J'ai l'impression que c'est un cercle dans lequel on est coincé.
Mais tu peux pas, parce que c'est leur analyse à eux. Eux, peut-être qu'ils n'ont pas envie de renvoyer telle ou telle image, de montrer qu'ils ne savent pas forcément s'exprimer. Donc tu peux pas. C'est comme tu as beaucoup de joueurs qui sont pas forcément français, qui vont préférer faire l'interview dans leur langue natale, parce que voilà, ils ont peur que en la faisant en français. Ils ne maîtrisent pas tout et que du coup, voilà, il y a des propos qui.
Lisandro Lopez était comme ça, par exemple.
Ouais, mais il y en a beaucoup.
Moi, je préfère faire les interviews en VO parce que je sais que le mec sera un peu plus. Ouais. Il va se lâcher un peu plus.
Un garçon comme André Di Maria, qui est à Paris depuis un moment maintenant, il comprend le français, mais il va préférer s'exprimer en espagnol.
Ça me rassure.
Parce que, voilà, il va pouvoir un peu plus développer et voilà, il se sent plus en
après,
sécurité.
C'est peut-être un des problèmes d'Emery, par exemple, où lui a toujours voulu faire l'effort et du coup, on comprend.
Et
pas
par contre, ça peut aussi être. Ça peut aussi être un moyen d'en dire un peu moins quand tu.
Ouais, mais ça l'a rendu super sympathique.
Oui, mais on s'est aussi moqué de lui, ça l'a rendu du coup beaucoup moins performant.
Je suis pas sûr, parce que tu vois. Ce qui rend aujourd'hui Thomas Tuchel très sympathique, c'est aussi le fait qu'il maîtrise déjà bien le français. Donc je suis pas sûr que.
Surtout, c'est une machine de guerre, Tuchel. Par rapport à Emery, qui était un peu en galère sur certains mots, Tuchel, c'est une machine de guerre. Il a même corrigé une traduction qui lui convenait pas. T'as vu ça? Il a fait corriger à posteriori une traduction de ses propos en disant, parce que le mec se réécoute et il lit la presse en disant non, j'ai pas vraiment dit ça. Et le média avait publié un petit message pour dire non, on s'est trompé.
Mais par exemple, l'exemple d'Emery, je vais te couper, l'exemple d'Emery, il est frappant de la puissance de la communication et de se dire, ce gars-là, on l'a laissé galérer en français. Et donc du coup les gens se sont moqués de lui en disant bah il est peut-être pas bon, alors que quand tu l'écoutais parler en espagnol, je me rappelle qu'il avait fait un truc sur une radio espagnole où il expliquait en fait tactiquement ce qu'il voulait faire. Ça paraissait beaucoup plus clair et du coup ce gars-là paraissait un peu moins con.
C'est le mythe. Mais Ancelotti, il est arrivé, il a parlé français. Enfin, c'est un peu ce mythe d'avoir l'entraîneur qui parle, parce que ça veut dire qu'il s'investit, ça veut dire qu'il aime la ville, etc. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure, la solution, peut-être Julien sera d'accord, mais je pense que si les médias envoient toujours un peu les mêmes journalistes, c'est qu'au bout d'un moment la solution, c'est de créer un lien de confiance aussi. Je pense que quand Julien il fait 2 3 4 5 6 fois le même joueur en interview, à un moment donné, il y a un truc de confiance qui se crée, le joueur est plus à l'aise et souvent les médias vont dire tiens, on a tel mec en interview, Julien, tu l'as déjà fait 5 fois. C'est toi qui vas y aller. Et on fait ce choix-là aussi parce que c'est comme ça qu'on aura une meilleure interview.
C'est ce qui se passe dans la plupart des médias. Et puis même déjà pour la relation de confiance. Et puis même quand tu sollicites le joueur ou l'agent, c'est mieux que ce soit toujours le même journaliste dans le média qui le fasse. Si tu as 4 journalistes de la rédaction qui appellent le joueur ou l'agent, au bout d'un moment, c'est compliqué.
Ça leur fait peur. Non, mais c'est...
Ouais, c'est ça.
Et moi, je me dis pour un truc, moi, c'est, ben, j'ai toujours fait ça, mais dans la grande surface, c'est ce qu'on faisait, c'est que vu que les stars sont ce qu'elles sont, etc., et qu'on a besoin de les voir dans les... Moi, je voulais qu'on mette vraiment en avant les joueurs de Ligue 1 qui sont des bons clients, qui sont des joueurs de milieu de tableau, qui ne feront pas, voilà, de Coupe du Monde ou d'Euro, etc. Et je trouve ça super cool. Un mec comme Gilles Sounou, c'est un bonheur de l'avoir devant le micro. Non, mais c'est vrai. Mmh. Il y a beaucoup de joueurs à Angers. Johan Andreux, par exemple, c'est un kiff ultime de parler avec lui et de l'avoir en interview. Donc voilà, il y a pas mal de Mathieu Dossévi, qui est juste un
buteur ce week-end.
High level. Et voilà, et en fait, je trouve ça cool, moi, de se dire, tiens, il y a quand même tout un vivier de joueurs qui sont très bons clients, qui peuvent vraiment faire marrer les gens et qui peuvent vraiment donner une image aussi super positive des footballeurs. C'est bien de les mettre beaucoup plus en avant.
On parlait de la relation privilégiée que peuvent avoir certains journalistes avec des joueurs, justement. Toi, Julien, tu connais bien Kylian Mbappé. On voulait en parler un petit peu de Kylian Mbappé dans cette émission parce que, bon, il représente plein de choses, la perfection niveau foot, évidemment, mais aussi dans sa communication. Est-ce que ça t'a frappé directement? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a progressé petit à petit? Est-ce qu'il est beaucoup aidé pour sa communication? Comment il gère tout ça?
Moi, ce qui m'a frappé au départ, c'est sa maturité, surtout au niveau de la communication. Parce que à son âge, il est vraiment, enfin la première fois que j'ai fait une interview, je pense qu'il devait avoir 17 ans. Enfin, c'était déjà le même, c'est-à-dire qu'il s'exprimait de la même façon. C'était assez impressionnant. Mais ça se traduit de la même façon sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est hyper mature et dans son jeu et lui humainement, c'est-à-dire qu'il vraiment il s'exprime mieux que la plupart des footballeurs. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure du langage corporel. Il est hyper, il est très souriant, donc. Ça donne envie aussi de l'écouter. Tu le vois à la télé, t'as envie de tendre l'oreille, d'écouter ce qu'il dit. Après, c'était quoi la fin de la question?
Moi, je sais pas.
Non, mais t'as répondu.
Mais est-ce que il a été accompagné dans tout ça? Parce que on savait que ce gars allait être un monstre à partir de 16 ans.
Comme dit Guillaume, c'est un cas à part. C'est-à-dire que très jeune, il a compris qu'il allait être footballeur professionnel. Il s'y est préparé à tout ça. Donc, ça lui est pas tombé dessus du jour au lendemain. Et il a eu le temps de préparer tout ça. C'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain. Donc
il y a pas de recette, quoi.
Il y a plein de joueurs pour lesquels la carrière de footballeur, elle est quand même bien.
Ouais, mais pour moi, ça c'est vraiment une nouvelle génération. C'est-à-dire que t'as même en matière de communication, tu vois, t'as eu l'avant et après France 98. Ou à partir de France 98, les joueurs sont devenus des stars, des people. Donc là, il a fallu prendre des agents. Il y en avait avant, mais c'est de plus en plus maîtriser encore plus la communication. Et lui, c'est encore pour moi une nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est le joueur qui sait dès l'âge de 12-13 ans que si tout va bien, il va être professionnel et il va y arriver. Il n'y a pas d'obstacle en fait, où il est franchi tous les obstacles, donc c'est un peu différent.
Il maîtrise tout, même l'autodérision. Quand il y avait eu l'histoire de Donatello, je crois que c'est Donatello, qu'on l'appelait. Mais il maîtrise tout, ça l'amusait, il rigolait, il commentait les vidéos de ses camarades. Même quand Benjamin Mendy à Monaco lui cassait les clavis tout le temps, il rigolait avec ça. C'est pas du tout un mec qui se vexe. Il comprend en fait les arcanes de la communication et qu'elle soit sérieuse, décalée. Le mec il gère, mais c'est un cas à part. Tu disais un truc intéressant tout à l'heure, tu disais on s'extasie devant lui alors qu'il parle normalement. Mais ça c'est un vrai problème, je sais pas si t'as ressenti ça aussi, mais des fois on s'extasie avec le mec qui juste disait pardon, je suis retard en conférence de presse, ou qui nous disait bonjour.
C'est vrai.
Et on était là, on se disait putain, le mec génial,
il nous a dit bonjour.
Et en fait, quand ton boulanger.
Il est arrivé à l'heure à l'interview.
C'est incroyable. Mais quand ton boulanger il te dit bonjour, tu te dis pas putain, génial, il m'a dit bonjour le boulanger, tu vois, c'est normal.
Et en fait, on
commence à s'extasier de la normalité. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent avec une demi-heure de retard, ils s'en foutent complètement, qui passent comme ça, vitre teintée, baissée devant les gens qui attendent depuis je sais pas combien de temps pour des interviews.
En fait, quand t'as des gens extraordinaires qui sont dans un quotidien ordinaire ou qui vivent comme des gens ordinaires, vivre, on s'entend évidemment, je trouve que ça rend la chose encore plus belle. On devrait pas, mais ça la rend.
C'est vrai.
Je ne sais
mais
pas
c'est
pourquoi.
Ce qui se passe. Ouais.
Voilà. Et par contre, pour revenir à Kylian, c'est un joueur fabuleux, etc. On a tout dit sur lui, on s'en fout un peu. Mais je trouve
surtout
que...
aujourd'hui. Enfin,
non mais
c'est pas un bon jour pour parler de Kylian Mbappé.
Oui, parce que Valentin est supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc, du coup, cette émission est enregistrée le lendemain de la victoire 5-0.
Regarde sa tête.
Oui, c'est pas marrant.
Mais je trouve que par exemple, Kylian, qui est un très bon communicant, je trouve que petit à petit, il arrive à faire un petit peu plus de langue de bois, etc. Ne serait-ce que l'interview d'hier où il disait non, le plus important c'est l'équipe. Je sais pas si c'est naturel.
C'est
si
parce
c'est
qu'il
quelque
en
chose...
fait. Déjà, on le connaît mieux de plus en plus. Il en a beaucoup fait. Donc, il y a pas de lassitude parce que des joueurs comme ça, c'est des top joueurs. Tu pourrais les entendre tous les jours. Mais je pense que au départ, il aurait sorti les mêmes phrases. tu l'aurais pas interprété de la même façon. Okay. Donc, c'est le fait aussi d'en faire beaucoup, je pense. Oui.
Et justement, moi, j'ai une des questions qui est importante, c'est est-ce que dans la communication d'un joueur, il doit pas aussi savoir parfois être muet et savoir justement genre apprécier ces moments de silence et ne pas être trop présent. Griezmann à un moment a fait énormément de publicité, Kylian a fait énormément de médias parce que c'est un bon client et du coup il répondait gentiment
parce qu'il le fallait aussi.
Mais du coup est-ce qu'un joueur doit pas aussi parfois savoir un petit peu
se mettre en retrait? Mais ils le font assez bien.
Ouais.
Hein.
Donc, ouais. La rareté suscite l'envie, donc forcément tu peux pas être tous les jours à la radio, à la télé, dans le journal papier, t'es obligé de te... Voilà, tu dois parler aux médias, pour moi c'est important, mais tu peux pas trop en faire. Après, faut savoir doser, faut savoir à quel moment parler, pourquoi, quel message tu veux faire passer. Et ça, c'est vrai qu'il y en a qui...
Est-ce qu'il doit avoir un message à faire passer à chaque fois, ou pas, ou juste répondre aux sollicitations?
Non.
Ça, c'est pas des communicants. C'est...
Non, mais pour le coup, il y a une différence entre le club et la fédération et l'équipe nationale. Ce qu'ils ont fait quand ils préparaient la Coupe du Monde, c'était pas pareil. Il y avait un espèce de petit désamour quand même en France avec les Bleus, et on avait besoin de joueurs qui portent quelque chose, un message pour le coup là qui est national. Donc ils l'ont fait et ils l'ont super bien fait. Que ce soit Griezmann, Mbappé, Umtiti, ils l'ont tous très bien fait. Ils ont redoré l'image de l'équipe de France. Donc là, c'est pas pareil. Après, pour leur club, on n'est pas dans la même problématique. Pour le club, il n'y a pas toujours forcément un message. Des fois, tu sais, t'as des conférences de presse toutes les semaines. Alors tu vas en avoir une avant PSG Lyon, mais t'en auras aussi une avant PSG Guingamp. Et au bout d'un moment, non mais j'adore les Guingampais. mais à l'arrivée, c'est pas forcément la même intensité. Le match n'est pas attendu de la même façon. C'est peut-être pas le match de dimanche soir. C'est voilà, mais t'as une conférence de presse qui est obligatoire chaque semaine. Et donc, il faut dire des choses. T'as des interviews chaque semaine. Donc voilà. Et là, il faut répondre à la sollicitation média. Il s'est rien passé depuis quelques jours. L'actu est plate.
Oui, ouais. Mais tu parles. Est-ce qu'ils ont toujours un message à faire passer? Non. Mais parfois, ça arrive. C'est-à-dire, un garçon, par exemple, comme Adrien Rabiot. Tout le monde là aimerait l'entendre sur son refus d'être dans la liste des réservistes. Ouais. Pour l'instant, tu l'entendras pas parce qu'il a décidé. Pour l'instant, c'était pas le moment d'en parler. Il en parlera sans doute un jour. Mais pour l'instant, non. Mais ça n'empêche pas que tu peux l'avoir en interview sur. Des après-matchs ou même à la mi-temps d'un match où là il sait qu'on va pas l'embêter sur ces questions-là. C'est pas, il veut pas ne plus communiquer. C'est-à-dire que sur un match il y aura pas de souci, mais il veut pas passer en zone mixte où il veut pas pour l'instant avoir un vrai entretien avec un journaliste parce qu'il sait que ces questions-là elles vont arriver. Et pour l'instant il estime que c'est pas le moment d'en parler ou il veut pas en parler.
Après on va pas se mentir, il est déjà arrivé que des conférences de presse avant qu'elles commencent, il y ait l'attaché de presse ou le directeur de com qui viennent et qui nous disent les gars évite cette question. Après il peut pas t'empêcher de la poser. Maintenant le joueur a des consignes de ne pas y répondre et puis tu sais très bien que la prochaine question que tu auras à poser, tu vas être plus dans l'embarras, tu sais que tu auras aucune réponse, donc en règle générale tu te plies un peu à l'interdiction. Donc il y a quand même aussi une maîtrise malgré tout à ce niveau-là.
Il y a plus de maîtrise en conférence de presse pour le club et le joueur, parce qu'en plus en général tu poses une question, tu gardes pas le micro, c'est pas un échange, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir relancer tout de suite.
Dans certaines interviews notamment, c'était, je crois que c'est Marquinhos au début de la saison dans l'équipe, et moi j'ai trouvé vachement bien parce qu'on sait comment ça fonctionne entre nous, c'est que parfois tu sais que t'as une interview avec le joueur parce que c'est via le sponsor ou via autrement ou l'agent que ce soit, et du coup ils te disent avant bah ok, mais vous parlez pas de ça ou de ça ou de ça,
de foot même
parfois, de foot
ouais, c'est vraiment
mais bon, dans ce cas tu refuses ou tu fais autre
chose. C'est le deal, hein.
Mais ils l'avaient mis avant, ils avaient dit on n'avait pas le droit de parler de Neymar au mondial et d'une prolongation de contrat ou je sais plus trop quoi, et au moins ils l'avaient mis dans le chapeau, et comme ça tu savais au moins que dans ton interview t'allais pas avoir ça, ils avaient pas eu le droit.
Après
c'est plus honnête, je trouve.
C'est plus honnête, mais c'est aussi une façon de se protéger, parce qu'au bout d'un moment, si c'est les questions que tout le monde a envie de poser à Marquinhos,
c'est à toi de refuser ou pas de faire une interview de la publicité.
Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que si tu fais pas ce petit chapeau en disant on nous a interdit de parler de ça, ça et ça, le mec qui lit l'article il va dire mais il a fait quoi,
il manque des questions,
il a fait quoi le stagiaire, il a coupé. Non mais donc c'est une façon de dire ne vous attendez pas à avoir la question que vous posez tous. Donc c'est une façon aussi de se protéger. Il n'y a pas quel joueur qui se protège, hein. Faut pas. Voilà.
C'est dur.
Pour revenir aux joueurs un peu muets, évidemment, N'Golo Kanté, c'est le spécialiste mondial de ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui jouit d'une popularité exceptionnelle. On ne l'a jamais entendu.
Alors, un truc sur N'Golo Kanté qui est génial. Quand il était à Caen, on voulait à tout prix le faire dans la grande surface. On l'avait demandé alors que c'était genre c'était deux ou troisième match. Et le club nous a dit non, on le protège à mort. Il savait déjà que ce mec-là était stratosphérique. Il savait déjà qu'il était super timide. On n'a jamais pu l'avoir, même quand il était nobody, en fait. Le club, c'est la seule fois où on a vu, enfin moi en tout cas, j'ai pas vu d'autres joueurs où c'était comme ça, une espèce de protection incroyable. On n'a jamais eu N'Golo
Kanté. Il commence là maintenant à s'ouvrir un peu quand même.
C'est léger.
Parce que c'est assez léger, mais il s'ouvre un petit peu. Mais c'est vrai que bon, lui aussi, c'est un peu un cas à part. C'est-à-dire que bah, déjà, c'est un super joueur. Et il a beau ne pas s'exprimer, c'est un soleil, c'est-à-dire ouais. qu'il rayonne sur, sur toute sourire. L'équipe, sur, sur ses coéquipiers, on voit que c'est un peu le chouchou, il va être touchant. Moi je me souviens d'une vidéo, je crois que c'est pendant la Coupe du Monde ou après, un bizutage, non pas un bizutage, il chante la chanson de Kanté, ils sont tous à table et tout le monde tape dans les mains et lui il est tout seul, tout gêné, mais en fait c'est hyper touchant, c'est ça aussi qui le rend attachant.
Et c'est ça, et c'est ça, en ne communiquant pas que. Exactement.
C'est une forme de communication muette. Il y a des joueurs qui parlent pas, et c'est parce qu'ils peuvent passer pour des gens hautains, qui refusent de parler, qui se considèrent au-dessus. Lui, il parle pas parce qu'il est timide, maladif. Et à l'arrivée, il est super touchant.
Mais on adore. C'est une question d'attitude. Tu vois, un joueur qui passe en zone mixte et qui dit je veux pas parler, bah, bien sûr, il a le droit de pas vouloir parler, ça arrive à tout le monde. Mais il passe, il te dit non, pas ce soir, il te fait un sourire, ou bonjour. Pas de soucis.
C'est ce qu'il racontait dans le documentaire. Il disait non, t'inquiète plus tard.
Mais le joueur qui va voir son casque, sa capuche, et qui va même pas te regarder, et qui passe quand tu lui demandes juste un petit mot, c'est aussi une question d'attitude, et ça, c'est hyper important.
Ouais, et c'est du respect aussi. Ce mec-là, il parle jamais, mais c'est l'un des mecs les plus respectueux. Voilà. En fait, je crois que c'est le mec le plus humble de l'un des
plus
humbles.
Il te dit non avec le sourire, en fait.
C'est une forme d'humilité, une forme de timidité maladive. Et tu vois, même quand ils ont fait le tour au Stade de France, c'est les autres joueurs qui l'ont poussé avec la Coupe du Monde pour qu'il puisse la brandir.
Là, on parle de quelqu'un d'un peu.
C'est spécial, encore une fois.
Très spécial. Ouais. Mais par exemple, je pensais à des joueurs qui ont des carrières incroyables, mais qui sont aussi hyper célèbres par leurs phrases. Quand on parlait de Zlatan tout à l'heure, pour moi c'est ça, c'est Zlatan. Je me demande en fait aujourd'hui à quoi il doit sa grande carrière. Est-ce que c'est uniquement son talent, ou est-ce que c'est sa façon de communiquer? Parce que pour moi c'est les deux, évidemment, mais quel est le ratio, en fait, la part entre le talent de ce gars et sa part de communication? À quel moment il s'est dit qu'est-ce qui est le plus important chez moi?
On tente un parallèle ou pas?
Non mais, bah, non, mais les parallèles.
Ouais, non, par exemple, un mec comme Dennis Bergkamp, qui était super fort et très très peu dans la communication, on s'en souvient, mais on s'en souviendra pas comme on s'en souviendra de Zlatan. Je pense que c'est un bonus, sa communication.
Ouais, c'est ça. À la base, c'est quand même, on s'intéresse autant à lui parce et on trouve ça aussi rigolo parce qu'on sait que c'est un joueur extraordinaire. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si c'est un joueur,
t'as Joey Barton qui a fait une carrière,
par exemple, même Adil Rami. Qui fait une carrière, qui est champion du monde parce que
tout le monde connaît. Mais quelle image t'as de Joey Barton? C'est aussi ça, tu vois?
C'est bien sympa.
Ouais. non, pas trop.
Moi,
c'est un mec sympa.
En fait, là, on parle de gens qui sont des rockstars. Que ce soit Joey Barton ou Zlatan, ils ont ce côté rockstar, c'est-à-dire un peu, ils peuvent être bad boy, ils peuvent se lâcher, ils peuvent.
Oui, t'as le droit de le faire en étant nul au foot, visiblement. Parce que Joey Barton, bon, non, mais avec tout le respect, il était pas incroyable.
Adil Rami, par exemple, tu vois, c'est pas. Je suis désolé, dans le panthéon du football, tu t'en souviendras pas.
Et pourtant, il
t'en souviendra parce qu'il est champion du monde.
Exactement. Ouais, et pourquoi il est champion du monde?
Et parce qu'il était champion de France avec Lille, c'est le mec qui a rien à voir. Non, mais alors, tu sais quoi, je parlais il y a longtemps, on me disait que les défenseurs centraux en Ligue 1, c'était le truc le plus recherché. C'était très dur d'avoir un défenseur central d'expérience, de métier qui sécurise, etc. D'où le fait d'avoir sorti notre ami Mustapha Bayalsal du loft à Saint-Etienne pour le faire revenir parce qu'il galérait pour le remplacer. En fait, c'est vraiment une denrée rare. Et Adil Rami, mine de rien, même si c'est pas le meilleur défenseur central du monde, il est super important. C'est le joueur le plus utilisé, je crois, l'année dernière par Rudy Garcia.
Et puis donc, par rapport à la Ligue 1, ça reste quand même un bon joueur. Hein.
Ouais, mais c'est là, je parle sur sa communication. Ouais, c'est-à-dire que de là en faire, tu vois, genre, j'aime pas du tout ce terme de qualité intrinsèque ou quoi ce que tu veux, mais genre. Il y avait mieux. Donc, s'il l'a pris, c'est parce que c'était aussi une personnalité, mais c'est aussi dans la communication. On se souvient tous de cette conf de presse incroyable.
Mythique,
où il fait rigoler tout le monde, où après il se cache dans les escaliers, où il dit les gars, vous m'avez posé la question. Quoi.
Mais au-delà de la communication, c'est plus sa personnalité. C'est quelqu'un qui est devenu professionnel assez tardivement. Et je pense qu'il a conscience de ça. Il kiffe son moment. Il profite vraiment de ça.
Il le dit d'ailleurs. Il dit putain, comme Thuram dit, je touche les équipements en 98. Là, il dit putain. C'est la première fois que je
kiffe tout. C'est pour ça aussi qu'il a cette attitude. Il va pas. Ok, il a pas joué la Coupe du Monde, mais il va pas les bouder sur le banc. Le mec, il est champion du monde. Il a conscience que c'est une chance incroyable. Donc voilà, lui, c'est pour ça que Deschamps.
J'ai l'impression que c'est un supporter en fait dans un corps de football.
Alors non, parce qu'en fait, il y a deux types.
Non mais non, vraiment, c'est un très bon footballeur. Hein. Enfin, je veux dire, bien plus fort que nous tous, évidemment. Réunis. Mais j'ai l'impression que c'est un réuni, bien sûr. J'ai l'impression que c'est vrai, c'est un supporter qui s'est dit, allez, je me suis réincarné en footballeur.
Il y a pas que ça. Il y a deux communications. Toi, tu parles de communication pendant avec les médias, mais son rôle dans le vestiaire.
C'est plus une question de communication pour moi, Rami.
Ce mec-là, c'est un ciment. Dans un vestiaire, pour un groupe, il est extrêmement important. Et une équipe, ça marche aussi avec des dynamiques. Et lui, il impulse les dynamiques de base. C'est comme le troisième gardien. Pourquoi est-ce qu'il prend pas Ruffier alors que pour moi Ruffier est le troisième gardien naturel à maintenant moins, mais à l'époque il y a encore pas si longtemps que ça, oui, parce que Ruffier il veut être numéro 1, parce que Ruffier c'est pas forcément cette personnalité qui va faire que, et le troisième gardien il jouera jamais une compétition, il a besoin d'être là pour être le ciment, le liant dans le vestiaire, quelqu'un, un bon camarade. Et Adil Rami c'est ça.
Dans la communication un peu muette, on retrouve aussi souvent les superstars, parce que finalement Cristiano Ronaldo, Messi, on les entend pas souvent. Ou alors quand on les entend, ça va être ce dont on parlait au début, c'est-à-dire de la pure langue de bois, quoi, de la vraie, juste propre. Pour remplir un flux, comme tu disais exactement.
Mais c'est aussi, Guillaume. c'est des superstars. Donc en fait, même si eux ne parlent pas, tu vas parler d'eux. Donc ouais. C'est aussi pour ça qu'ils parlent très peu.
Donc ils en ont plus besoin, quoi. Bah, à partir du moment où on atteint un certain palier.
S'il n'aime pas ça particulièrement, il a aucun intérêt à le faire. Après Zlatan, il adore ça, donc il va chez qui, Jimmy, non, c'était pas chez Kimmel, mais enfin il va dans les talk-shows américains, il adore ça, donc c'est cool. Cristiano, bon, des fois il fait des Insta live. Voilà, il est content, il se fait des petites vidéos sur Insta en live avec sa go.
Mais justement, les réseaux sociaux, ça c'est vraiment la nouvelle manière qu'ont les footballeurs de communiquer. Là, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pas leur club qui décide, ils sont chez eux avec leur portable, ils peuvent très bien, comme tu dis, lancer un live et dire de la merde, lancer un périscope et dire de la grosse merde. Merci Serge. Est-ce que ça a changé le rapport aussi que les journalistes ont avec les joueurs, puisqu'ils savent maintenant qu'ils ont une manière de s'exprimer plus simple et plus directe avec leurs fans? Ils ont peut-être moins besoin des journalistes.
C'est ce qui fait, ouais, c'est sûr. C'est ce qui fait aussi qu'ils se sont un peu enfermés. Parce que aujourd'hui, t'as des joueurs qui ont 15, 20, 30 millions de followers qui vont poster un message, un texte ou une vidéo et qui vont toucher plus de monde que si ils avaient parlé à un
joueur. Tous
journal,
les médias réunis.
Voilà. Donc forcément, j'ai un exemple en tête. Alors lui, il a pas 20 millions de followers, mais Jean-Kévin Augustin, qui a refusé de jouer avec les Espoirs, ouais. Il n'a pas donné une interview à un journal ou à la télé. Il a fait un petit communiqué sur Twitter ou Instagram, et puis tout le monde reprend. Donc forcément, et c'est mieux pour lui, parce qu'il sait qu'il ne sera pas piégé. Il délivre son message, il n'y aura pas de questions supplémentaires, et voilà. C'est...
Ouais, mais à l'inverse, ça peut aussi être dangereux pour eux. On prend l'exemple de Thomas Meunier qui like une photo d'un tifo de l'OM, ou là récemment, mais je trouve ça ridicule aussi.
C'est un feu de paille.
Non, mais tu vois, c'est-à-dire que
c'est un cercle vicieux.
Ça les aide à communiquer sur plein de choses, mais parfois, tu dis, bah, le mec, il a regardé une photo, il a liké. On se moque à un moment de Rabiot qui likait des photos de jolies meufs sur Instagram. Mais ouais. Ce qu'ils veulent, qu'il ne l'a pas fait.
Qu'il
ne le fait pas, tu vois.
Non, mais pour le coup, il y a un truc. On est dans l'euphorie encore de la Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé génial leur com pendant la Coupe du Monde. Déjà, je trouve que voilà, l'attitude de Deschamps, elle a été juste incroyable, parce qu'on lui a cassé la tête avec cette question des réseaux sociaux avant et pendant la Coupe du Monde. Il a toujours dit les joueurs font ce qu'ils veulent. Ils assumeront s'il y a des conséquences ou quoi. Mais les mecs ont fait une com géniale. Et à l'arrivée, ils ont construit leur image. Autant en France 98, c'était Black Bomber, c'était un truc qui avait été fait de toutes pièces par les médias. Et c'était un peu du marketing.
Et ils étaient pas si potes que ça.
Ouais, puis c'était un marketing un petit peu violent, quoi, tu vois. Et là, les mecs, ils ont construit leur propre image. Et ils ont bousculé les codes, en fait, en faisant ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde. Et je trouve qu'en fait, ils savent vraiment très bien s'en servir. C'est des super communicants. Tu vois.
Dans ce cas, oui, mais par exemple, encore un exemple récent, cette semaine, Paul Pogba, qui la semaine dernière a fait une vidéo Instagram où il était en tribune pendant un match que Manchester perd. Il était souriant en tribune. Et ça lui a été reproché. C'est Mourinho lui en a voulu. C'est un nouveau rapport quand même.
Mourinho il t'en voudra toujours pour un truc à un moment ou à un autre.
C'est un peu maladroit, mais ça prend des proportions énormes parce que c'est Paul Pogba. Mais c'est sur le coup.
Puis ça retombe.
3 jours après, il marque, il fait une passe décisive et puis t'as oublié.
Ouais, mais attention, ils sont très forts. Rappelez-vous après le mauvais match de l'équipe de France là contre le Danemark. C'est vrai que les matchs de poule ont été catastrophiques pendant la Coupe du Monde. Les mecs, ils arrêtaient pas de parler, etc. Ils ont complètement arrêté. Regardez les stories à ce moment-là, enfin, pour plus les voir, mais si vous vous souvenez, c'était que des photos officielles faites par le photographe des Bleus de Pogba à l'entraînement. Umtiti, il avait mis sa petite blague sur la main, après il a arrêté, et pendant plusieurs jours, ils ont plus parlé. Après l'Argentine, ils se sont remis. Et en fait, les mecs, ils savent quand poster, ils savent quand faire. Et à l'arrivée, ils ont été manipulés par personne. Ils ont construit leur propre image, ils ont fait leur truc, et ça les a rapprochés des gens.
Des mecs,
on n'a jamais autant aimé une équipe de France que celle-là pour ça.
Parce qu'on avait accès à des choses qui n'étaient pas teintées par les médias, parce que là, c'était directement proposé par Kimpembe. Sur Spotify, il y avait la playlist de l'enceinte Kimpembe. C'est devenu viral tu vois des mecs comme Benjamin Mendy qui sont très très bons communicants.
Super.
En fait, je suis pressé de voir la fin de leur carrière à ces gars-là pour savoir ce qu'ils vont faire.
Ils sont super. Mais Benjamin Mendy, c'est un génie.
Et puis la génération suivante aussi.
Ils sont engagés. Parce qu'après, il y a eu la polémique entre les joueurs français qui venaient d'autres, qui pouvaient avoir d'autres nationalités, où il y avait eu une listing des 23 nationalités autres joueurs français. Et Benjamin Mendy a pris le même listing, il a mis les 23 drapeaux français, il avait dit fixed, et il dit voilà les gars.
Dites-moi un truc, si les mecs n'avaient pas géré leur communication, je pense pas qu'Obama ait parlé d'eux dans un discours. Obama dise. Enfin, on est devenu hype aux yeux des Afro-Américains, des inespérés. On est quand même la France. On n'a jamais espéré être hype nulle part. Là, c'était juste incroyable. Et les mecs. Et il y a eu aussi une conf qui était géniale. Pas c'est quoi que celle de Rami. Je sais pas. Peut-être que tu y étais à cette conf de Griezmann et de Matuidi. Alors c'est vrai que Matuidi c'est pas le meilleur client, mais depuis quelques temps il est en train d'exploser. Mais la conf où ils disent,
ils sont que c'est la fin, donc il peut
mais la conf où l'autre il dit j'aime la France, on a un beau pays, vive la France, etc. Les mecs ils ont fait un truc super fort ce jour-là, c'est qu'ils ont remis au goût du jour l'idée du patriotisme, qui était vraiment un terme qui avait été vraiment
confisqué.
Pris et confisqué par l'extrême droite. Et eux ils arrivent, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont d'origine hispanique et ils te sortent des trucs comme ça. Et en fait,
est-ce qu'ils en sont vraiment? Je pense que c'était un peu pour rigoler. Non. Ils ont pas de message politique derrière.
C'est pas politique, c'est juste que les mecs ils se sont dit voilà, nous on est fiers d'être français. C'est un truc que t'avais du mal à dire avant parce que c'était vraiment confisqué, comme t'as dit, par le Front National et l'extrême droite française. Et les mecs ils ont dit non, nous on est fiers, on y va, on gère tellement notre com, on va tout changer.
Et ils le font avec leur langage et leurs mots à eux. Et c'est pour ça aussi que ça touche.
C'est hyper impactant. Et c'est parce qu'au départ on parlait de la langue de bois et que de se dire est-ce qu'il y a l'importance sur les trois points, etc. Machin. C'est que dans la communication des joueurs aussi, et là on est un peu plus profond dans le débat, c'est de dire ils ont des messages à faire passer. Notamment en sélection nationale, et quand tu les vois chanter, quand tu les vois embrasser leur maillot, expliquer ce que c'est pour eux, ce que ça représente, le maillot, la sélection, le fait d'être ensemble, c'est aussi des messages qui sont très forts pour les gens qui regardent aussi et pour les jeunes. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, confisquer ces éléments patriotiques, ça n'aurait jamais dû être fait, et aujourd'hui on a pu les récupérer en partie grâce à une équipe
parce que
de mecs qui courent.
C'était une prise de risque. Imagine-toi Griezmann il y a encore un an de ça, qui devant la caméra après un match dit vive la France. Mais là il prend un risque énorme le type. T'imagines, tout le monde peut réagir, mais attends, il se passe ça ou il y a ça, tiens il y a les élections présidentielles, il y a Marine Le Pen au second tour, comment, tu vois, d'un seul coup le mec il va sur un terrain politique, et là il le fait avec une fraîcheur, une candeur, et donc il récupère tout. C'est voilà, et là pour le coup
je pense qu'ils sont simplement emparés du folklore en fait autour du foot international, qui est encore un peu fondé sur le patriotisme, mais c'est vraiment juste un petit folklore de fond.
C'est cool de l'avoir fait. C'est super cool. Et moi, je pense que c'est important.
C'est habile peut-être, mais je pense pas qu'il y avait de message derrière et que c'était calculé.
En fait, c'est qu'ils l'ont fait.
Ils s'en foutent, je pense.
Ils l'ont fait à leur façon et du coup, d'une façon moderne. D'une façon moderne. Genre, de faire une story Instagram en mettant bleu, blanc, rouge, tout ce que tu veux, etc. Bah, ça aurait pu être très limite. Si c'est Zemmour qui fait ça, on trouve ça très limite.
Ah oui, mais là c'est des joueurs de foot, donc on s'en fout de leur message politique. Ce qui nous intéresse, c'est le message de foot.
C'est pas politique, c'est sociétal.
C'est ça.
C'est ce que je veux t'expliquer, c'est qu'ils sont pas dans la politique, ils sont dans la société, et là ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière, et c'est cool de l'avoir fait. Ils l'ont bien fait.
Mais bah merci au bleu de l'équipe de France. J'espère que vous avez révisé et que vous avez réfléchi un peu pendant toute cette émission.
Absolument
à l'anecdote que vous allez nous raconter maintenant.
Absolument pas.
Yes.
Absolument
pas. Bah écoutez, on a hâte d'y être. C'est parti pour Extra Time. Dans cet extra time, puisqu'on a que des journalistes autour de la table, vous allez devoir nous raconter un off, un truc marrant. On n'a pas eu le temps d'en parler, Thias, des off, parce que bon, on n'a jamais le temps de
faire. En parler, c'est pour ça.
Oui, c'est vrai, que c'est le principe.
C'est moi, je parle trop.
Le off, évidemment, c'est discussion que des joueurs peuvent avoir avec des journalistes en dehors, une fois que les caméras sont éteintes, quand on discute, quoi, tout simplement. Donc il va falloir nous raconter un truc marrant, un truc voilà, qu'on a envie de savoir quand même un peu. Par qui on commence, du coup?
Julien, il a réfléchi.
Yannick l'a préparé.
Je sais pas, mais alors non, pas du tout.
On a le droit d'avoir un truc qui est sur une bande, mais qu'on n'a pas mis dans un sujet. C'est off ou pas?
On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que tu nous racontes une anecdote marrante.
Moi, elle est rapide, elle est facile. C'était avec Mamadou Sakho. Donc c'était hier.
Ah, il faut donner des noms en plus.
Ah oui, bah oui, quand même. Tu le donnes. Mamadou Sakho, de retour en équipe de France, tu vois. Donc c'est parfait. Et en fait, on discutait, on faisait une interview dans le 20e, etc. Et c'était juste après France-Ukraine, je crois, quand il se qualifie, mais un doublé là. Donc bref. Et on se parle, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que t'espères aller au mondial, etc., machin, et puis il me fait une réponse très propre. Oh, bah, écoute, j'attends de voir la sélection, etc., blabla, blabla, habituel, langue de bois, puissance 1000. Et quelqu'un arrive dans la salle, donc on est obligé de couper le micro, etc., il discute 30 secondes, etc., et il me fait, tu sais, franchement, moi, si Didier me prend pas, j'arrive à Clairefontaine, j'arrive avec mes valises, et je lui dis, mais Didier, c'est quoi le délire, là? J'arrive avec mes valises, je bouge pas. Et on a mort de rire. On est mort de rire tous les deux, etc. Tout se passe. Il me fait, ah, par contre, tu le mets pas, s'il te plaît, parce que, et tout machin.
Et oui, et c'est
évidemment,
normal.
Si évidemment, je le mets pas parce que, comment tu veux faire comprendre aux gens que c'est une blague, que le mec, il est juste, il crève d'envie de faire le mondial, et que c'est juste une blague pour lui, parce que pour lui, il mérite d'en être, et c'est juste une façon drôle de se dire, je suis ultra motivé pour y aller, Didier, prends-moi, je suis prêt à tout, à faire les cafés, etc.
Et je pense que maintenant, tu pourrais le mettre.
Ben ouais, peut-être qu'aujourd'hui
il y a une espèce de hype. Aujourd'hui tu pourrais le mettre. Ouais. Ressors-le.
C'est pas assez fort. Je sais pas si je l'avais filmé. Mais en tout cas voilà. Donc aujourd'hui je le raconte. Donc j'espère que Mamadou tu m'en voudras pas. De toute façon aujourd'hui t'es de retour en équipe de France.
Et oui.
Donc
et c'est mérité.
Ouais. C'est un petit off. C'est pas grand chose. Mais je pense qu'à cette époque-là, ça se serait peut-être mal passé et on aurait pu dire ah, putain il se la raconte, il se prend pour qui, etc.
Moi je suis captivé par ce que dit Yannick, mais du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir à mon off.
C'est à ton tour.
Guillaume.
Ouais, non, moi ça va être super rapide. Oui. Le seul truc qui m'est en tête, c'est Blaise Matuidi en zone mixte au PSG après un match. Il avait été énorme comme d'hab. Et je lui... en termes de course surtout. Et je lui avais demandé combien il avait de poumons à la fin de l'interview. Je lui ai dit alors, t'as vraiment, mais dis-nous combien t'as de poumons. Et il m'a regardé très sérieusement et il m'a dit, bah, comme tout le monde, j'en ai un. Et j'ai trouvé cette réponse géniale. Je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'il a confondu le cœur et le poumon. Donc voilà, docteur Maboul, il devait pas être super fort, mais on l'a pas mis parce que.
Tu l'avais pas mis ?
Non, parce qu'on voulait pas qu'il passe pour un idiot alors qu'il n'en est pas un. Il est un mec super.
Oui, mais tu vois, justement, tout le monde sait que Blaise Matuidi n'est pas un idiot. Tout le monde sait que Blaise Matuidi sait qu'on a deux poumons.
Bah oui, non, mais ça rigole. Ouais. C'est dans un zapping, tu vois.
Ça,
c'est...
voilà, tu vois, et puis on voulait pas. Voilà. Après, le mec peut se froisser et dire voilà, t'aurais pu l'enlever, tu vois. Après, tu le recroises et puis. Mm. Voilà, c'est cool à raconter. Ça fait des bonnes anecdotes pour c'est les ça. Petites dames phares au coin du feu.
Bah merci pour cette anecdote, Guillaume.
Julien, toujours dans le mal total.
Ouais, je sais pas du tout.
Arrête d'écouter nos histoires et cherche la tienne.
Franchement, j'ai pas de off rigolo comme ça, très sérieusement.
Ah bah, prends-nous un off très grave.
Ouais. C'est ça, un truc qui
a bien plombé l'ambiance.
Si tu veux, tu dis pas le nom du joueur, tu balances un truc qui craint.
Non, ça c'est pas cool. T'en as pas un petit
Si, en plus, j'ai pensé à un truc tout à l'heure et en plus, voilà, c'est un peu mignon parce que c'était avec Guillaume. Évidemment, c'est Guillaume, mignon. On l'a pas dit au début de cette émission, mais c'est un peu mon papa, quoi, dans le journalisme, vraiment. Les gens qui m'apprennent des trucs, bon, il y a Guillaume. Et un jour, on était ensemble en tournage à Lille pour faire nos conneries habituelles pour la grande surface. Vraiment, bon, on fait une interview avec, je vais citer son nom, Franck Beria. Franck Beria qui est en plus un joueur hyper intelligent et vraiment sympa. Enfin, en vrai, il est plutôt sympa, Franck Beria. Et bon, mais les interviews, ça le fait un peu chier. Et donc, on fait cette interview et il est désagréable, il veut pas rigoler. On essaye de lui faire des blagues par tous les moyens. Et franchement, quand Guillaume essaye de faire des blagues, c'est normalement, tu sais, bon, au bout d'un moment, tu craques, quoi. Tu comprends qu'il faut rigoler.
Normalement, ouais.
Et il rigole pas, il nous fait une interview terrible et il s'en va. Et là, Rio Mavuba, qui était capitaine à l'époque, c'était lui qui gérait tout à Lille, vient. Et là, on comprend l'importance de la communication pour lui. Il est venu, il s'est excusé du comportement de Franck Beria. Il a été nous chercher deux jeunes pour qu'on refasse l'interview, qu'on refasse nos petites blagues, nos petites scènes et tout. Et il nous a dit, voilà les gars, désolé, c'est pas trop son truc, faut pas lui en vouloir, mais la prochaine fois, vous me demandez à moi, je vous trouve des joueurs bien.
Le patron, quoi.
Voilà, le boss. C'était le boss de la communication à Lille. Ouais. Et donc voilà, c'était sympa de... Voilà.
C'est vrai,
c'était mon anecdote.
J'avais oublié cette histoire.
Ben voilà, moi j'oublie pas.
Parce que Franck Kiki Beria, il a eu un moment. Oui, Franck Kiki Beria, son nom. Il a eu un moment où.
Yes, merci Guillaume. Alors Julien, est-ce que ça a bossé
discrètement de passer sous la table?
On meuble pour qu'il réfléchisse,
ouais,
tu vois.
Meubler encore parce que je te jure que je ne trouve pas de.
T'hésites même pas entre plusieurs, non?
Ah non, je te jure que je cherche un truc comme ça qui m'est arrivé, mais j'ai.
Voilà. Fait, elle se passe tout.
Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les off, c'est terminé. Ouais. C'est terminé.
Non, mais j'ai pas de off hyper rigolo ou de petites anecdotes.
Tant pis, on va faire.
C'est pas la conférence de presse de Laurent Blanc quand il a dit ça va donner du pain à moudre.
Non, je l'ai entendu, je m'en souviens, mais j'étais pas là.
Merde, tu vas pas le raconter.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Julien d'avoir été.
On remercie
avec
Julien quand
aujourd'hui.
Même.
Ouais, quand même.
Ouais,
quand même.
Ouais, ok, d'accord.
Il a dit des trucs quand même. Merci Yannick aussi d'avoir été là, comme chaque semaine, décidément, tu te restes
alors. Alors, je suis grave titulaire de ouf, alors que j'étais malade. J'espère que c'est pas trop entendu. J'ai toussé de temps en temps, je suis désolé.
Bah, c'est pas grave. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aller mettre des machins, des étoiles sur iTunes, c'est très important.
Fais ça bien, c'est ça bien. Genre, c'est toi. Explique pourquoi, c'est pas genre...
Mais c'est très important parce que nous, ça va faire remonter notre podcast et ainsi vous serez de plus en plus à nous écouter chaque semaine et ça nous fait très plaisir.
Et
ça
du
nous
coup, donne l'occasion de faire beaucoup meilleurs... plus d'argent.
Exactement.
C'est parce que c'est quand même l'argent.
C'est quand même ça l'important. Merci. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine.
À très vite. Ciao, ciao.
C'est fini.